Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
La sécurité et la protection des civils au cœur de la première mission sur terrain du chef de la MONUSCO. James Swan a démarré hier une tournée dans le Nord Kivu. Il a notamment rencontré le gouverneur de province et le comité provincial de sécurité. Son programme prévoit aujourd'hui des entretiens avec la société civile. Vous suivez James Swan dans ce journal. La RDC et la Zambie ont évalué ce week-end l'accord commercial bilatéral qui les lie. Ils ont notamment décidé de consolider la lutte contre les exportations frauduleuses et d'œuvrer davantage pour la digitalisation des postes frontaliers à guichet unique. Le 9e round des négociations entre le gouvernement et l'AFC-M23 s'est achevé vendredi en Suisse. Ils sont accordés notamment sur la libération des détenus et le déploiement imminent d'un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont analysé les conclusions de cette rencontre. Leur réaction dans cette édition. Bonjour. L'évaluation de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la Zambie avec la consolidation de la lutte contre le phénomène dumping, mais aussi l'accord de construction et de digitalisation des postes frontaliers à réunir le Kasumbalesa, Kipushi, Sakane et Mukambo, signé dernièrement à Lusaka. C'est aussi été au centre d'une réunion stratégique hier lundi 20 avril à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipo Kamulenga. Juste Mister Bilanda nous en dit plus.
Au terme de cette réunion, une commission mixte d'experts a été mise en place pour accélérer la mise en œuvre des différentes mesures prises pour accroître les volumes des échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie, mais également de lutter contre les dumpings, une pratique commerciale déloyale consistant pour une entreprise à exporter des produits vers un pays tiers à un prix inférieur à leur valeur normale. Devant la presse, le ministre zambien du Commerce et Industrie, Chipoka Mulenga, a salué ces renforcements de la coopération économique et commerciale.
Je remercie la relation bilatérale entre moi et le ministre du Commerce extérieur. Jusqu'à présent, nos relations évoluent très bien, nos relations bilatérales. Nous avions eu le temps d'échanger et d'évaluer même les différents travaux bilatéraux qui existent entre nous et les frontières RDC-Zambie. Et nous félicitons ces relations et espérons encore qu'aux jours à venir, nous aurons à travailler et avancer ces relations et les différentes constructions qui doivent prendre place entre les différentes frontières.
Sachez que cette réunion s'est tenue en présence des ambassadeurs ainsi que des experts de ces deux pays voisins.
À Kinshasa, l'utilisation du gaz domestique gagne progressivement du terrain dans les ménages et les petits commerces. Plus rapide que le charbon, il séduit de plus en plus d'utilisateurs, même si certains restent encore réticents par peur d'incendie et d'explosion, souvent dû à des fuites, aux mauvais entretien des équipements ou à une mauvaise manipulation. Daniela Awa s'y est penchée.
Dans plusieurs fast-food et foyers de la capitale, le gaz domestique devient un outil de cuisson de plus en plus utilisé. Pour de nombreux professionnels de la restauration, il facilite le travail au quotidien grâce à sa rapidité et à l'absence de fumée. Une employée dans un fast-food témoigne de son expérience.
Pour nous, le gaz, c'est comme un secours. Et pour la rapidité aussi de la cuisine, ça joue un très grand rôle.
Mais pour Madame Pamela, mère de famille, le charbon de bois reste le meilleur choix.
On préfère plutôt les braises ou soit le réchaud par une copine. Elle avait perdu la vie après l'explosion des gaz domestiques.
Le docteur Martin Kanoubi dit, expert en santé publique, rappelle quant à lui que l'utilisation du gaz domestique exige beaucoup de précautions.
Qu'il n'y ait pas une fuite. Mettre la bouteille dans un environnement où le tuyau ne sera pas troué, dans un endroit de flammes de feu et des chaleurs intenses. Et si vous entrez dans d'une cuisine et que vous sentez l'odeur gaz, évitez d'utiliser votre téléphone. Ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce et ensuite essayez de fermer le van qui alimente le gaz.
Entre rapidité et sécurité, le choix entre gaz domestique et charbon reste un véritable dilemme pour de nombreux ménages kinois.
Dans la commune de Barumbu, toujours à Kinshasa, précisément au marché de Ndolo, les conditions d'hygiène demeurent préoccupantes. Entre des tas d'immondices qui s'accumulent et des aliments, ainsi que des marchandises insuffisamment conservées, l'insalubrité s'installe durablement. Cette situation inquiète de plus en plus des acheteurs. Certains disent redouter des risques sanitaires liés à la consommation des produits exposés dans ces conditions. C'est un reportage d'Estan de Mamboté.
Nous sommes au marché de Ndolo dans la commune de Barumbu où l'insalubrité reste très visible. Des immondices mêlées à la boue et à la poussière s'accumulent à proximité des étals au milieu desquels sont exposés les produits alimentaires. Acheteurs et vendeurs tentent tant bien que mal de se frayer un passage entre les zones les moins insalubres au prix de nombreux désagréments. Rencontrée sur place, une acheteuse raconte le calvaire qu'elle vit chaque fois qu'elle fréquente ce marché.
Le problème que nous avons, c'est souvent la pluie. Quand il pleut, on est obligé de porter les bottes parce qu'il y a beaucoup d'eau. On ne supporte pas cette saleté. Lorsqu'on entre dans les marchés, il y a trop de boue.
Mais au-delà de l'inconfort, ces conditions exposent également la population à des graves risques sanitaires. Le docteur Yves Mputu, médecin généraliste et expert en santé publique, met en garde.
Dans des marchés insalubres, les risques majeurs sont la contamination fécale orale à l'absence d'eau potable, à une mauvaise gestion des déchets, à des pratiques d'hygiène insuffisantes. Cela exposerait les vendeurs et les consommateurs à des infections, des intoxications alimentaires.
Face à cette situation, clients et vendeurs appellent les autorités à agir en renforçant les opérations d'assainissement et en améliorant les infrastructures du marché. À noter toutefois que des travaux de réhabilitation de l'entrée du marché du côté de la prison de Ndolo sont en cours depuis la semaine dernière.
Parlons à présent de cette triste réalité. La guerre qui sévit dans la partie est de la RDC est devenue l'une des machines de fabrication des personnes handicapées. C'est le constat fait par le mouvement citoyen Debout Congolais lors d'un forum sur la paix et la sécurité dans l'est du pays, rencontre organisée hier à Kinshasa. Les participants à cette activité appellent les autorités congolaises à renforcer les mécanismes de protection des civils. Que retenir, Joël Wichi?
Réunis dans la salle Kimia sur le site de la MONUSCO Itex Africa à Kinshasa, les membres de la société civile, étudiants, scientifiques et membres du mouvement citoyen Debout Congolais disent avoir constaté que le combat entre les forces loyalistes et les groupes armés est l'une des causes de l'augmentation du nombre de personnes vivant avec handicap dans l'est de la RDC. Devenu handicapé depuis 2000 ans suite à la guerre qu'il avait trouvée à Chabunda dans le Sud Kivu, Barthélémy revient sur ses souvenirs qui ne quittent jamais son esprit.
Après que j'ai joué au ballon, à la fin du match, j'ai ramassé quelque chose à l'âge de 7 ans. Moi, ne sachant pas que c'est un engin explosif, du coup, ça a éclaté. La personne qui détenait ça, c'est lui qui était décédé. Et par les éclats, pour moi, ça a été l'occasion que je sois amputé de la main droite.
Pour les députés honoraires Ados Ndombasi, le gouvernement doit indemniser à 100% les enfants du pays victimes de ces combats.
Nous prenons l'indemnisation de chaque citoyen congolais qui a perdu un membre de son corps. Il devait être indemnisé par l'État congolais.
Le mouvement citoyen Debout Congolais, c'est une structure créée le 8 septembre 2019 avec pour mission de réunir les jeunes pour réfléchir sur les questions d'actualité du pays dans tous les secteurs afin de construire un Congo solidaire.
Dans l'actualité aussi, cette invitation, l'Union sacrée de la Nation appelle les différentes couches sociales à soumettre des propositions en vue d'une réforme de la Constitution République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié hier lundi, son secrétariat permanent invite notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les universitaires ainsi que les juristes au pays comme dans la diaspora à transmettre leurs contributions au plus tard le 20 mai prochain. Sur cette plateforme politique au pouvoir, cette démarche fait suite à plusieurs initiatives et manifestations de soutien à une éventuelle réforme de la Constitution du 18 février 2006. Une commission technique sera mise en place pour analyser les différentes propositions et élaborer un rapport destiné au président de la République, précise le communiqué. Dans la province du Maniema, pendant qu'on s'approche des épreuves hors session de l'examen d'État, des parents d'élèves finalistes du secteur de Ikama, en territoire de Pangui, dénoncent de mauvaises manœuvres dans l'opération de prise de photos passeport des élèves finalistes par certains inspecteurs. Selon ces parents, il y a déjà deux inspecteurs dans la même année scolaire qui ont exigé séparément des frais de ces photos. Ils plaident pour une intervention urgente des autorités éducationnelles afin que ces pratiques qualifiées d'escroquerie soient découragées. On écoute un des parents.
Sur devant la radio pour informer les autorités du Maniema qui nous captent à ce moment, de dénoncer une manœuvre que nous qualifions d'escroquerie ici chez nous à Kama, dans le secteur de Zikama. C'était au mois de novembre, l'inspecteur nommé Takaïche est venu prendre des photos passeport aux élèves finalistes et a exigé une somme de 5 000 francs pour chacun. Et il est rentré à Kinshasa. Ce qui nous fait étonner encore, hier, l'inspecteur Massimango est revenu à son tour exiger encore une somme de 6 000 francs pour ces mêmes faits. Non, les enfants sont venus nous dire ça et ça a donné beaucoup d'inquiétude. outils de parents. Et jusque-là, les motifs de la reprise des photos et la récolte de cet argent restent encore inconnus jusque-là. Alors, nous ne savons pas maintenant qui a escroqué entre ces deux messieurs, le premier inspecteur ou soit le deuxième. La situation reste confuse et moi qui vous parle suis victime de ça. Notre regret, comment nous allons payer 11 000 francs uniquement pour les photos passeport? C'est pour cela que nous demandons aux autorités de l'EPCT provincial du Maniema de nous venir en aide pour que nos droits soient restitués et s'ils ne sont pas confiés de ce que nous dénonçons, que la commission d'enquête descende sur terrain.
Contactez les inspecteurs, incriminés rejettent en bloc toutes ces accusations. Retour à Kinshasa pour parler du phénomène fille-mère qui prend de l'ampleur. Dans les communes et quartiers périphériques de la capitale congolaise, de nombreuses adolescentes tombent enceintes très tôt et sont souvent abandonnées par leurs partenaires ou leurs familles. Cette situation entraîne une déscolarisation précoce, une stigmatisation sociale et parfois un rejet familial. C'est un reportage de Christophe Ngandou.
Ces phénomènes préoccupants et en croissance touchent particulièrement les adolescentes âgées de 14 à 18 ans dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Une jeune mère de 17 ans rencontre un parcours marqué par l'abandon scolaire et l'absence de soutien.
Mon premier enfant, je l'ai eu quand j'avais 13 ans. C'était pénible pour moi, car l'auteur de la grossesse avait fui. J'étais rejetée et abandonnée. Après 9 mois, j'ai accouché aujourd'hui mon fils à 5 ans et l'autre enfant à 2 ans. Son père avait accepté de me prendre en charge.
Pour Joseph Kodé Kayembe, président du conseil d'administration de l'ONG Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, les ADEL, la responsabilité est partagée entre les parents qui doivent jouer les rôles de prise en charge des enfants et l'État congolais qui doit prendre des mesures fermes pour la protection des enfants.
L'État a l'obligation de mettre le moyen pour que les parents prennent en charge leurs enfants. Deuxièmement, la communauté a l'obligation aussi de s'impliquer dans la protection de l'enfant que nous déplorons aujourd'hui. Il faut que la police de protection de l'enfant s'implique. Il faut que les services de sécurité s'impliquent pour que la protection des enfants soit une réalité.
L'ampleur de ces phénomènes est un défi majeur pour les autorités qui doivent renforcer la protection des enfants.
Dans la province du Kwilu, les détenus de la prison de Gungu vivent depuis plusieurs mois dans des conditions difficiles. Amaigris et souffrant de la faim, ils font face à une pénurie croissante de nourriture. Selon le président de la société civile locale, cela s'explique par l'absence de subvention du gouvernement central depuis 12 mois. Joachim Kusamba appelle les autorités à trouver rapidement une solution pour améliorer la situation des détenus. Il plaide également pour un renforcement du personnel judiciaire. Il rappelle que la contrée souffre d'un manque de magistrats depuis 3 ans. Joachim Kusamba a été joint par Alain Rung.
L'état de la prison centrale de Gungu, la prison a une capacité de 120 à 130 détenus. Les détenus de cette prison traversent une période de précarité terrible, l'amaigrissement total, à cause de la rupture des frais de fonctionnement donc qui devrait être donné par le gouvernement central. Et la directrice de cette prison avait reçu la dernière tranche de ces frais de fonctionnement, c'était le dernier trimestre de l'année 2024. On a traversé les 4 trimestres de l'année 2025, aucun rond pour les frais de fonctionnement et les premiers aussi trimestres de l'année 2026, il n'y a rien comme frais de fonctionnement. Ce sont des gens de bonne volonté de certaines églises. Leur assistance aussi n'est pas régulière. Ce sont ces gens-là qui aident quand même ces détenus pour leur survie. Et aussi, une autre provision vient de la part de bourgmestre. Et le bourgmestre prend ça au niveau des marchés centraux de Gungu. Et c'est chaque dimanche, donc on fait un peu la collecte pour ramener cette provision à la prison centrale de Gungu. Mais aussi, la quantité n'est pas vraiment tout à fait suffisante.
Actualité internationale. En Libye, un nouvel épisode de tensions politiques secoue le sommet de l'État. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose le président du conseil présidentiel, Mohamed El Menfi, au chef du gouvernement sortant, Abdelhamid Deibé, basé à Tripoli. Cette lutte de pouvoir, qui s'inscrit dans un contexte institutionnel déjà fragile, porte désormais sur des questions clés de gouvernance. Les différends ne se limitent pas aux nominations diplomatiques et à la délimitation des prérogatives respectives des deux institutions. Il s'étend désormais à la nomination du chef de la diplomatie, un poste stratégique au cœur des relations internationales du pays.
L'invité.
Le 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23 s'est achevé vendredi à Montreux en Suisse. Les deux parties se sont accordées sur plusieurs points, entre autres la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain d'un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé les conclusions issues du 9e round de ces négociations. On les écoute au micro de Guy Maté.
Karline Zanzoukasevita, vous êtes députée nationale élue de Beni Territoire. Vous êtes vice-présidente de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la nation. Quelle lecture vous faites de ces conclusions de ce 9e round de négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23?
Je pense que les assises de la Suisse peuvent être analysées d'une manière divergente en fonction des informations qu'on a. Moi, je pense que effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées au regard du communiqué qui a été fait. Il faut avouer que contrairement à d'autres discussions à Doha, il n'y a pas eu blocage. Les AFC 23 et le gouvernement ont pu discuter 5 jours durant. Certes, ils ont passé beaucoup de temps à réexaminer les arriérés diplomatiques qu'ils ont pu discuter, mais aussi ils ont convenu que pour l'avenir, il faut faciliter l'accès humanitaire, ce qui est un aspect important. Je l'ai toujours dit ici, que la population qui se retrouve dans les zones sous contrôle de la rébellion 23, s'il faut le dire comme ça, c'est une population congolaise. On ne peut pas fermer les yeux sur l'essor de cette population. Et pour ça, moi je pense que c'est une avancée assez significative de pouvoir réfléchir comment continuer à aider cette population. Ils ont aussi convenu, les partis, sur la surveillance du cessez-le-feu. Parce qu'en fait, si vous regardez aujourd'hui les avancées qu'il y a, on a impliqué le mécanisme de vérification conjointe. Ce mécanisme va permettre effectivement de renforcer la confiance et cela va permettre effectivement la circulation des acteurs humanitaires. Et donc pour moi, je crois que ces deux aspects sont à considérer comme des avancées.
Merci Nico Maengele, vous êtes avocat, vous êtes président de la commission justice, droits humains et démocratie de la coalition Lamuka. Vous êtes également président du parti politique Le Congo Normal. Comment vous comprenez les conclusions des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 en Suisse?
J'ai religieusement suivi l'honorable Carly. Je crois savoir que nous, au sein de la Mouka, nous avons toujours estimé que la question de la paix à l'est du Congo, c'est une question qui concerne la République démocratique du Congo d'abord. Et les conclusions autour d'une question d'une telle ampleur ne peuvent en aucun cas, ni d'aucune manière, être parcellaires. La démarche, elle est déjà faussée dès le départ. Elle est erronée. Parce que pour nous, la Mouka, pour nous, Congo normal, nous estimons que pour résorber la crise congolaise, il va falloir mettre en place une approche holistique. Le gouvernement en place est en train de procéder de manière sélective, croyant résoudre un problème beaucoup plus global avec des partenaires qui ne les sont pas. Je suis en face de l'honorable qui est chargé, entre autres, de questions de défense au sein du Parlement. Il ne va pas ignorer que, au regard des données telles qu'avancées par le PDDRCS, au Congo, à l'Est principalement, il y a plus de 200 groupes armés. Là, on est en face d'un seul groupe armé. Comment peut-on résoudre un problème aussi crucial, aussi global, qui concerne plus de 200 groupes armés avec un seul groupe armé, utile soit-il? Vous constaterez que cette question de la crise congolaise, sur le plan holistique en termes d'approche, doit entre autres impliquer non seulement les groupes armés, mais aussi la société civile. Comment peut-on résoudre un problème loin du lieu où se commettent les crimes? Il y a des victimes directes et indirectes qui doivent être impliquées dans les processus.
Merci. Regen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Comment vous entrevoyez la suite de ce processus de pacification de la RDC?
Moi, je dirais que tous les acteurs doivent être responsables et se rassurer qu'en fait, à un certain moment, il faut qu'on arrive à une fin. Et donc, on ne va pas rester dans ces surplaces très longtemps. Et il faut se faire en sorte que la population soit encore remise au centre de ces discussions, que par exemple les questions d'accès humanitaire avec l'ouverture de l'aéroport ou la question de l'accès au système bancaire ne puissent pas être de monnaie d'échange pour des questions individuelles. Je pense qu'il est très important que l'intérêt de la population, où qu'elle soit à Kinshasa ou à Goma, qui reste encore une population congolaise, soit émis au centre du jeu.
Je vous rappelle que vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Cette édition du journal est arrivée à son terme. Jude Mistin Bilanda l'a préparée et elle est parvenue chez vous grâce à l'apport technique de Dieudonné Nyangasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente journée.
C'était là les journaux de Babel Pongo Massimango qui reviendra dans ce studio lorsqu'il sera 9h pour les bulletins d'information. Dernière partie de la matinale sur la fréquence de la paix Radio Kapi. Dieudonné Nyangasa sur toujours la mise en onde de cette antenne. Mon nom c'est Kaki Akewa. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec Christelle Fritti à qui j'ai dit bonjour.
Bonjour Kaki Akewa. Bonjour auditeurs et internautes.
Alors Christelle, c'est la dernière partie de Okapi matin. Qu'est-ce qui est prévu?
Pour cette dernière partie, nous avons les dédicaces qui vont intervenir.